Chapitre 25. Embarras. J'étais loin d'avoir sur Nugent la même opinion que Lucille. Selon moi, son aplomb imperturbable était trop amusant pour qu'on s'en fâchât. J'aimais la gaieté et l'entrain de ce jeune homme qui me semblait atteindre bien plus que son frère, par sa fougue et sa résolution, l'idéal que je me fais d'un homme qui n'a pas encore atteint la trentaine. D'après ce que j'avais vu, Nugent avait sur Oscar cet avantage d'être ce qu'on appelle familièrement un bon garçon. J'attache une grande importance à la sociabilité. Les qualités sérieuses ne se montrent que lorsqu'on les force. Nous sommes à même d'apprécier à chaque instant cette qualité chez ceux qui nous entourent. Et cependant, un léger obstacle m'empêchait d'accorder ma sympathie tout entière à Nugent. Je ne comprenais pas du tout l'impression que Lucille avait produite sur lui. Cette contrainte, qu'il avait déjà montrée d'une manière si évidente à leur première entrevue, continuait à peser sur lui lorsqu'il se trouvait en sa présence. Son entrain ordinaire lui faisait alors complètement défaut, et Madame Finch pouvait facilement, grâce à la présence de sa fille, le réduire au silence. Quand il commençait à parler des merveilles qu'il voulait accomplir en peinture, l'entrée de Lucille suffisait pour l'arrêter, et lorsqu'il me montra pour la première fois ses croquis américains, qui n'étaient que les œuvres d'un amateur hardi, mais imbu d'idées fausses sur l'art, il se trouvait en verve et marchait de long en large en se frappant le front et m'annonçait gravement qu'il allait devenir le grand maître de la peinture de paysage. Ma mission, Madame Pratolungo, est d'habituer l'homme à la nature. Je me propose de démontrer sur une vaste échelle comme quoi la nature peut, sous son aspect le plus grandiose, s'adapter aux besoins spirituels de l'homme. Celui qui sait chercher finit par trouver une secrète sympathie pour nos joies et pour nos malheurs dans la nature. Mes tableaux, non, je dirais plutôt mes poèmes en peinture, vous le démontreront. Mes œuvres reproduites à l'aide de la gravure, que devient l'art entre mes mains? Un sacerdoce. Et je me présente non en simple paysagiste, mais en grand consolateur. Il ressemblait étonnamment à Oscar par la fougue avec laquelle il s'exprimait. Si, au milieu de toutes ces belles prédictions sur sa renommée future, Lucille entrait sans bruit, le grand consolateur fermait son carton à dessin, abandonnait la peinture, redevenait un vrai modèle de civilité puérile et honnête, et nous priait de faire un peu de musique. Quand je lui demandais ensuite pourquoi il s'était arrêté ainsi dans ses péroraisons à l'aspect de Lucille, « Ma foi, c'est sans m'en douter moi-même, répondait-il, et je ne saurais vous en donner la raison. » C'était vraiment inexplicable. Il avait pour elle une vive admiration. On le voyait bien à la manière dont il la contemplait. Il ignorait l'aversion de Lucille, aversion que la jeune fille cachait avec soin pour ne pas faire de peine à Oscar. Nugent compatissait sincèrement au malheur qui avait frappé Mlle Finch. L'espoir exagéré qu'il avait de lui rendre la vue le prouvait abondamment, et bien loin de s'opposer au mariage de son frère, il allait jusqu'à blesser continuellement la dignité du recteur en lui proposant de hâter la cérémonie nuptiale. Je me rappelle l'avoir entendu dire à ce dernier « Voyons, monsieur Finch, l'église n'est pas loin. Pourquoi ne pas endosser votre surplis et faire le bonheur d'Oscar pas plus tard que demain après déjeuner ?» Il montrait un vif désir de savoir comment Oscar et Lucille en étaient venus à s'aimer. Pour les détails, je lui conseillais de s'adresser à son frère comme le plus apte à le renseigner sur ce qu'il avait éprouvé en cette occasion. Il suivit mon conseil et m'annonça qu'il avait réussi à tirer de son frère les détails en question en ne lui parlant que de Lucille. Il lui avait d'abord demandé comment cela avait commencé de son côté. Ici, je lui rappelais dans quelles circonstances romanesques Oscar se trouvait à Dymchurch et je le priais de considérer l'effet que cela devait produire sur l'imagination impressionnable d'une jeune fille. Mais il refusa de me répondre et voulut que ce fût moi qui me prononçasse la première. Un détail, dans la simple et courte histoire des amours d'Oscar et de Lucille, sembla le frapper vivement. Je veux parler de l'effet produit sur Lucille lorsqu'elle entendit pour la première fois la voix d'Oscar. Ce détail le préoccupait singulièrement. Il ne pouvait se l'expliquer et refusait d'y croire. Il le trouvait même ridicule. Force me fut de lui rappeler que Lucille était aveugle. L'amour, qui, dans les cas ordinaires, atteint le cœur à travers les yeux, ne pouvait pénétrer chez elle que par l'ouïe. Mon explication le fit réfléchir. Le son de sa voix, disait-il, en se parlant tout haut à lui-même, et tâchant de résoudre ce problème, et l'on dit que la mienne ressemble à s'y méprendre à celle d'Oscar. Est-ce là aussi votre opinion ? Je lui répondis affirmativement. Sur quoi il se leva, frissonna légèrement, comme si le froid l'avait saisi, et changea la conversation. Il devint, dans la suite, de plus en plus contraint auprès de Lucille, et il semblait qu'il ne pût jamais devenir plus familier avec elle. En ma présence, il était à l'aise. Avec elle, c'était tout le contraire. Que devais-je conclure de tout cela ? Je le sais à l'heure qu'il est, mais sur ma parole d'honnête femme, je ne le compris pas alors. Nous ne sommes pas toujours conséquents avec nous-mêmes. Les plus habiles peuvent tomber à un moment donné dans l'ineptie, de même que les sots ont parfois un éclair de génie. Il ne s'ensuit pas que, parce que vous aurez bien conduit vos affaires lundi, mardi et mercredi, vous ne puissiez commettre quelque folie le jeudi. Expliquez cela si vous pouvez, mais pendant un intervalle que mon amour-propre m'empêche de déterminer, je n'eus pas le moindre soupçon et je ne m'aperçus de rien. Je remarquai simplement que la conduite de Nugent à l'égard de Lucille était inexplicable. Dans la quinzaine qui suivit, le médecin de Londres vint voir Oscar. Il le quitta très satisfait du résultat de son traitement. « Les crises, nous dit-il, ne viendront plus torturer le patient et épouvanter ses amis. Le mariage peut se célébrer à la date fixée. Oscar est radicalement guéri. » La visite du médecin, en réveillant de nouveau notre attention sur l'effet du remède, nous avait rappelé la fausse position d'Oscar à l'égard de Lucille. Nous en causâmes, Nugent et moi. Je commençai par proposer d'unir nos efforts pour lui persuader d'agir enfin avec courage et franchise. Nugent ne répondit ni oui ni non. Il demanda, lui qui prenait en toute occasion une décision si prompte, du temps pour réfléchir. « Je voudrais bien auparavant, dit-il, savoir ce que c'est que cette antipathie singulière de Lucille qui est un si grand sujet d'alarme pour mon frère. Pouvez-vous me l'expliquer, vous ?»« Oscar ne vous a-t-il pas donné cette explication ?» lui répondis-je. « Il m'en a parlé dans une des lettres qu'il m'écrivait et il a essayé de l'expliquer. Mais quand, à mon arrivée au sable, je lui demandais si Lucille avait découvert le changement survenu dans son visage, il ne put surmonter sur un point la difficulté que j'éprouvais à comprendre cette antipathie. Sur quel point ? Voici, elle ne découvre pas par intuition la présence de personnes brunes ou d'objets de nuances foncées. Ce n'est que lorsqu'on l'en avertit que son antipathie se déclare. Quelle est la cause d'un sentiment aussi bizarre et comment l'expliquer, puisque, aveugle dès l'âge d'un an, elle ne peut attribuer, ne les connaissant pas, une idée de douleur et de plaisir aux différentes couleurs. Peut-être est-ce une sensation purement instinctive qui ne se réveille que sous l'influence extérieure et ne repose sur aucune donnée certaine. « Je crois, lui répondis-je, à son existence. » « M'expliquerez-vous pourquoi, étant petite fille et sachant à peine marcher, j'éprouvais déjà de la répulsion pour un chien qui aboyait après moi. Je ne pouvais pas, à un âge aussi tendre, savoir, soit par expérience, soit par ceux qui m'entouraient, qu'un chien qui veut mordre commence souvent par aboyer. Ma crainte ne pouvait être que purement instinctive. » L'argument est fort habilement présenté, dit-il, mais il ne me satisfait aucunement. « Souvenez-vous, repris-je, qu'en certaines circonstances, les couleurs foncées produisent sur elle une impression pénible et désagréable. C'est ainsi que, le jour de mon arrivée à Dymchurch, elle découvrit au toucher que je portais une robe foncée. Oui, mais quand elle touche la figure de mon frère, elle ne s'aperçoit d'aucun changement. » Je lui répliquai d'une manière satisfaisante selon moi. Je n'oserais affirmer qu'elle ne le découvrirait pas si elle n'avait jamais touché sa figure avant que sa peau eût changé de couleur. Elle conserve sa première impression. En admettant que le sens du toucher se modifie chez elle, et en n'oubliant pas que c'est la couleur et non le grain de la peau qui est changé, on arrive à comprendre parfaitement pourquoi elle n'a rien pu découvrir. Nguyen secoua la tête d'un air de doute. Il ne pouvait réfuter mon argument, mais il n'était pas encore convaincu. Savez-vous quelques détails sur elle lorsqu'elle était enfant et avant qu'elle eût perdu la vue? Elle se ressent peut-être, à son insu et d'une façon indirecte, de quelque chose qui aurait affecté son système nerveux à cette époque. Je n'ai jamais songé à la questionner sur ce point. Y a-t-il quelqu'un qui l'ait bien connu dans son enfance? Je crains bien cependant que le temps n'ait effacé la mémoire de ses faits et gestes. Oui, répondis-je, il y a sa vieille nourrice qui peut vous renseigner. Auriez-vous la bonté de la faire appeler? Je sonnai et Zilla parut. Après lui avoir expliqué ce dont il s'agissait, Nguyen aborda la question. Votre jeune maîtresse, lorsqu'elle n'était encore qu'une enfant, a-t-elle été effrayée par quelque personne brune ou par quelque objet de couleur sombre qui lui serait apparu subitement? Jamais que je sache, monsieur. J'ai toujours écarté d'elle avec soin tout ce qui aurait pu l'effrayer, la pauvre petite, jusqu'à l'heure où elle perdit l'usage de ses yeux. En êtes-vous bien sûr? Parfaitement. Et même je me souviens mieux de ce qui s'est passé alors que de faits plus récents. Zilla congédié, Nguyen, qui avait jusque-là gardé un air sérieux et inquiet qui ne lui était pas habituel, sembla soulagé et se tourna vers moi. Quand vous m'avez proposé de me joindre à vous pour décider Oscar à avouer la vérité à Lucille, je n'étais pas sans inquiétude pour ceux qui pourraient s'en suivre. Après ce que je viens d'apprendre, mes craintes sont dissipées. Quelle crainte ? Lui demandai-je. Je craignais que les aveux d'Oscar ne jetassent entre lui et Lucille un froid qui aurait pu retarder leur mariage. Je n'aime pas les retards et je désire tout particulièrement que le mariage d'Oscar ne soit pas remis de nouveau. Au début de notre entretien, je vous avoue que je pensais avec mon frère qu'il serait bon que la cérémonie eût lieu aussitôt que possible pour rendre sa position dans le cœur de Lucille plus sûre avant la révélation du secret. Mais, après ce que vient de me déclarer la nourrice, je ne vois plus aucun danger sérieux. « En somme, lui dis-je, vous partagez mon opinion ?»« Oui, et cependant, je suis l'homme le plus difficile à convaincre de la terre. Les chances me semblent pencher maintenant du côté d'Oscar. L'antipathie de Lucille n'est pas, comme je le croyais, enracinée au point d'être une sorte de maladie constitutionnelle. Ce n'est, reprit-il en tranchant la question d'un air doctoral, ce n'est qu'une espèce de monomanie, résultat morbide de son infirmité. Elle pourra peut-être s'en débarrasser dans la suite, mais à coup sûr, elle en serait guérie si elle recouvrait l'usage de ses yeux. Enfin, après ce que je viens d'apprendre, je suis de votre avis. Oscar se crée des fantômes. Il y a longtemps qu'il aurait dû tout avouer à Lucille. Comme j'ai sur lui une influence illimitée, je me joindrai à vous pour le décider à dire franchement la vérité à Lucille avant que la semaine soit écoulée. Nous ratifiâmes ce pacte en nous serrant la main. En le voyant si résolu, j'avoue à ma honte que je me pris à regretter que ce ne fût pas lui que nous eussions rencontré au lieu de son frère, le soir d'où datait une ère nouvelle dans l'existence de Lucille. Ayant dit tout ce que nous avions à nous dire pendant que nos deux amoureux se promenaient, nous nous séparâmes comme si nous ne devions plus nous revoir ce jour-là. Nguyen alla à l'auberge examiner une écurie qu'il avait l'intention de faire arranger et transformer en atelier, n'ayant pu trouver au sable une pièce assez grande pour contenir la première toile énorme avec laquelle le grand consolateur se proposait d'étonner le public. Quant à moi, n'ayant rien à faire pour le moment, je sortis pour aller à la rencontre d'Oscar et de Lucille. Ne les ayant pas trouvés, je m'en retournai en passant par les sables. Je vis Nguyen assis sur un mur peu élevé devant la maison et fumant son cigare. Il se leva et vint à ma rencontre le doigt sur les lèvres. « N'entrez pas, me dit-il, et parlez de manière qu'on ne vous entende pas. » Il me montra le côté de la maison où se trouvait la petite chambre dont j'ai déjà parlé. Oscar et Lucille sont enfermés là-dedans et il est en train de lui tout avouer. Je levai les yeux et les bras au ciel d'étonnement. « Je vois que vous voudriez savoir comment ils en sont venus là, » reprit Nguyen. Eh bien, je vais vous le dire. Tandis que j'examinais l'écurie, qui n'est pas encore assez spacieuse pour ce que j'en veux faire, le domestique d'Oscar m'apporta un petit billet au crayon dans lequel il me priait d'aller le trouver sans retard au sable. Il m'attendait ici en proie à une extrême agitation. Il me fit la même recommandation que je viens de vous faire, c'est-à-dire de parler à voix basse parce que Lucille était dans la maison. Je l'interrompis en lui disant que je croyais qu'il était allé faire une promenade avec elle. En effet, mais Lucille s'est plainte de la fatigue et Oscar l'a ramenée au sable pour qu'elle se reposât. Il m'avoua que, pour la seconde fois, son secret était parvenu accidentellement aux oreilles de Lucille. Serait-ce encore cette petite Jix ? Non pas, la faute en est au domestique d'Oscar. Comment cela ? Oscar et Lucille ont trouvé un des petits polissons du village qui hurlait sur le seuil. Ils lui ont demandé ce qu'il avait et il a répondu que le domestique d'Oscar l'avait battu. Lucille en a été indignée. Elle a exigé qu'on questionnât le domestique. Oscar l'a appelé dans le corridor et lui a demandé pourquoi il avait maltraité l'enfant. « Que vous a-t-il donc fait ? » demanda-t-il. Le domestique lui répondit que le bambin avait frappé avec un bâton à la porte pour demander si l'homme bleu était chez lui. Il ajouta que ce n'était pas la première fois qu'il se conduisait ainsi et il avait corrigé pour servir d'exemple aux autres polissons de son espèce. Lucille, qu'il avait malheureusement laissé dans le salon sans fermer la porte, entendit tout. Inutile de vous raconter ce qui en résulta. Je me souvenais trop bien de ce qui était arrivé dans le jardin. Je vis clairement que Lucille, avec sa méfiance habituelle, avait dû se rappeler la première circonstance, la rattacher à la seconde et agir sans aucun retard. « Je comprends, lui dis-je, elle aura naturellement exigé une explication. Naturellement aussi, Oscar se sera compromis par quelque excuse maladroite et vous aura demandé de venir à son aide. Qu'avez-vous fait ensuite ?»« Ce que je vous ai dit que je ferai ce matin. Pauvre garçon, il s'attendait à ce que je prisse sa défense, il faisait pitié. Mais dans son propre intérêt, j'ai tenu bon. » Je lui ai donné le choix ou de révéler lui-même le secret à Lucille ou de me laisser le lui dire. Il n'y avait pas un moment à perdre et je vous promets qu'elle n'était pas d'humeur à plaisanter. Oscar s'est très bien conduit. C'est toujours comme cela quand je le mets au pied du mur. Il a eu, en un mot, le mal courage de décider que si quelqu'un devait révéler ce secret, ce devait être lui. J'ai serré le pauvre garçon sur mon cœur pour lui donner un peu de courage. Puis, l'ayant poussé dans la chambre, j'ai fermé la porte sur lui et je suis resté dehors. Je l'attends encore. Il devrait avoir fini. Ah, le voilà. Oscar se précipita dehors, la tête nue. Nous pressentîmes, à son air profondément troublé, qu'il s'était passé quelque chose de fâcheux. Nugent prit le premier la parole. « Qu'y a-t-il ? As-tu dit la vérité à Lucille ?»« J'ai essayé. »« Essayé ?» Oscar passa son bras autour du cou de son frère et inclina sa tête sur son épaule sans dire un mot. Je le questionnai à mon tour. « Lucille, a-t-elle refusé de vous écouter ?»« Non. » »« A-t-elle fait ou dit quelque chose ?» Il leva la tête et m'arrêta avant que j'eusse pu finir ma phrase. J'ai satisfait la curiosité de Lucille. Nous nous regardâmes, Nugent et moi. Lucille avait tout appris. Et cet heureux résultat, il nous l'annonçait avec humiliation et désespoir. Nugent perdit patience. « Allons, dit-il vivement, finissons-en. Assez de cette mystification. Réponds simplement à une simple question. Elle sait que l'enfant a frappé à la porte en demandant l'homme bleu. A-t-elle su ce que signifiait ce sobriquet, oui ou non ?»«
Oui. » »«
C'est-elle que c'est à toi qu'il s'adressait ?»«
Non. » »«
Non ?» « À qui, alors ?» Comme il disait ces mots, Lucille parut sur le seuil. Elle tournait sa figure de côté et d'autre. « Oscar » cria-t-elle, « pourquoi m'avez-vous laissé seul ? Où êtes-vous ? » Oscar, tout tremblant, se tourna vers son frère. « Pour l'amour de Dieu, Nugent, dit-il, pardonne-moi. Elle croit que c'est à toi que s'adresse ce sobriquet. »